un podcast France Culture. No.
L'Europe des transports trace sa route dans le cadre de la série « Les défis de l'Europe verte » que nous avons initiée en janvier et qui vous propose chaque mois d'explorer un secteur spécifique. Eh bien, nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à la mobilité et au transport. Avec le Green Deal, l'Europe s'est donné des objectifs pour atteindre une décarbonation totale de son économie en 2050. Dans ce panorama, les émissions de gaz à effet de serre issues des transports représentent 25% du total des émissions de l'Union européenne. Or, l'Europe s'est fixée pour ambition une réduction de 90% des émissions des transports d'ici 2050. Comment mettre en œuvre cet objectif? Quelles solutions pour en finir avec le véhicule thermique? Quelle mobilité et quelle industrialisation vertueuse pour demain? Réponse avec nos deux invités. Diane Strauss, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du bureau français de l'ONG Transport et Environnement. Et avec nous également Jean-Philippe Hermine. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géologue de formation, directeur général de l'Institut Mobilité en Transition, fondé, je le précise, par l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et on peut préciser que vous avez donc rejoint l'IDRI en 2021 après avoir passé 10 ans à la tête de la stratégie environnement du groupe Renault. Et puis dans l'œil du monde planète, le journaliste du quotidien Le Monde, Stéphane Mandard, nous parlera d'un traité international sur la pollution plastique qui peine à venir. Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine de l'environnement sur France Culture, préparé par Anaïs Morales, avec l'appui toujours de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang et des équipes de documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Hugo Renard. Alors, en guise d'introduction, peut-être pouvons-nous tenter d'établir un état des lieux en matière d'ambition du Pacte Vert Européen sur cette question de mobilité. Il faut peut-être rappeler que le Pacte Vert Européen, il a été lancé en janvier 2020. Voilà, concrètement, ambition, quelles sont-elles sur ce secteur des transports qui représente quand même 5% du PIB de l'Union Européenne et qui emploie, je crois, 10 millions de personnes en Europe. C'est pas rien. Diane Strauss.
Oui. Alors le transport, il faut savoir que c'est le secteur qui émet le plus de CO2 dans l'économie européenne et française. Et puis c'est le secteur dont on n'arrive pas à faire diminuer les émissions puisqu'elles stagnent. Et dans ce cadre-là, l'Union européenne a décidé, dans le cadre de son Green Deal, d'établir des objectifs de réduction d'émissions de CO2 qui vont s'appliquer aux industriels et aux États. Aux industriels, puisqu'on va vers une fin de la voiture thermique, comme vous l'avez dit, d'ici à 2035. L'objectif, c'est zéro émission à l'échappement en 2035 pour les voitures, 90% de réduction d'émissions pour les poids lourds d'ici à 2040. Et puis, on a aussi, dans le cadre du Green Deal, des objectifs d'intégration de carburants plus durables dans l'aviation et dans le maritime.
On va pouvoir en parler effectivement, Jean-Philippe Hermine, donc ce Green Deal qui fixe un cadre réglementaire avec cette fin de vente des véhicules émetteurs à partir de 2035. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur justement ces ambitions?
Alors ce sont des objectifs, oui. Mais ils s'accompagnent, et c'est ça qui est intéressant dans le Green Deal, d'une trajectoire avec des objectifs intermédiaires en 2025, en 2035. C'est-à-dire que les constructeurs, lorsqu'ils vendent des véhicules, la moyenne des ventes, ils doivent respecter des moyenne de CO2 par kilomètre émis de l'ensemble de leur vente de l'année et ils doivent réussir à atteindre des seuils qui vont diminuant en matière d'émissions. Et donc il y a toute une trajectoire. Et pour y arriver, ils peuvent soit faire des véhicules plus petits, par exemple, soit faire des véhicules plus efficients, c'est-à-dire moins consommateurs d'énergie et moins émetteurs, comme des véhicules qui ne sont pas des SUV, par exemple, et qui ne sont pas très adaptés pour ça.
Donc SUV ou SUV, voilà.
SUV, pardon. Non. Ça devient assez connu maintenant.
C'est ça, les SUV.
Oui. Et puis, ils peuvent changer de technologie de propulsion, c'est-à-dire passer à l'électrique, par exemple, aux véhicules électriques, et ça va être le levier le plus important pour faire évoluer ce parc. Donc quand on dit qu'on veut être neutre en carbone en 2050, c'est sortir des énergies fossiles en électrifiant le parc, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi diminuer l'empreinte carbone à la production des véhicules. On va en parler, je pense.
Oui,
c'est,
tout à fait.
C'est l'empreinte carbone des batteries, justement, ou de l'ensemble du véhicule, avec l'acier, l'aluminium, etc. Donc, c'est tout un ensemble de mesures. Il n'y a pas que cette réglementation sur le CO2 qui se met en place au niveau européen. C'est tout un ensemble, le Green Deal, qui est assez complexe et assez complet, mais qui peut encore être amélioré. Et je pense qu'on en parlera
exactement. Potentiellement. En tout cas, ces objectifs premiers de l'UE, c'est quand même aussi de mettre en sécurité les générations futures, de développer une autre mobilité neutre, puisque là on parle beaucoup des véhicules, mais on parlera aussi des autres moyens de se déplacer. Et donc cette mobilité, la rendre accessible à tous et préserver aussi l'emploi et l'industrie. Donc tout cela, c'est vraiment tenir compte des questions sociales et environnementales et industrielles. Voilà un joli programme. Alors comment faire pour atteindre les objectifs? Quelle est la mise en œuvre actuelle avant de parler justement de celle qu'il faudrait envisager? Diane Strauss?
Alors là, donc on l'a dit, l'Union européenne a fixé ses grands objectifs. Elle a initié finalement cette transition. Elle fixe un cap et une trajectoire. Et maintenant, c'est aux États de mettre en œuvre ce changement et aux constructeurs. Donc on a vu que les constructeurs étaient vraiment en train de se mobiliser, d'aller vers le véhicule électrique. L'électrification, c'est, comme on le disait, vraiment un des leviers fondamentaux pour décarboner les transports. Ce ne sera pas le seul, il y aura bien sûr l'efficacité énergétique et la sobriété, mais l'électrification sera un levier vraiment très important.
Tous les constructeurs, pardon, actent cette évolution, ou est-ce qu'il y a des réticences quand même?
Alors, Jean-Philippe pourra compléter. Oui. L'ensemble des constructeurs auront des sanctions s'ils ne respectent pas leur objectif. Donc, ils ont, bon an, mal an, embrassé le projet de l'électrification. Mais certains, en effet, plus que d'autres, avec une meilleure volonté. Ce qu'on peut dire, c'est de toute façon que maintenant, à l'heure actuelle, on sait que l'électrification va se faire et que c'est aussi la voie pour une industrie compétitive européenne. Et c'est aussi ce que les constructeurs sont en train de réaliser. On a vu, il y a quelques jours, le PDG de Stellantis, Monsieur Tavares, expliquer qu'il ne faut pas revenir en arrière sur la fin de vente des véhicules thermiques en 2035. Donc on voit que finalement, l'industrie s'est mise en mouvement, s'est préparée, a investi massivement aussi dans la technologie batterie, et elle ne veut pas de retour en arrière ou une temporalité supplémentaire qui finalement lui ferait perdre de la compétitivité.
Oui, perte de compétitivité, et puis ça pourrait coûter beaucoup plus cher finalement. Jean-Philippe Hermine.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. En fait, un cadre réglementaire, c'est pas qu'un champ de contraintes, c'est aussi un cadre de compétition quelque part, et de compétition juste, puisque tous les acteurs ont les mêmes objectifs. Et c'est aussi quelque chose qui sécurise les investissements. Une telle transformation, qui nécessite de gros investissements, qui nécessite de transformer aussi les compétences. Et on parle, vous l'avez dit, de dizaines de millions de personnes.
Oui, hein, 10 millions apparemment.
Qui sont impliquées dans cette industrie. Tout ça prend du temps. Nécessite de l'argent, nécessite d'être sécurisé. Il faut dérisquer. La réglementation, c'est une façon de dérisquer. Et là, on l'a rappelé dans le cadre des élections européennes, une petite musique de gens qui disent « mais tous ces choix sont inconséquents, on n'a pas fait les études d'impact, etc. » Alors d'abord, on a fait les études d'impact qu'il fallait, celles qui sont les plus importantes, à savoir celles de l'impact sur les générations futures. Et dans un moment, je le rappelle, il y a 2 ou 3 ans, où tous les constructeurs rivalisaient d'annonces pour dire « je serai le meilleur, je serai en avance sur les objectifs réglementaires ». Il faut dire ce qu'ils cherchaient à l'époque, c'est un peu les valorisations à la Tesla, hein, qui était un pure player électrique. Et donc, ils étaient très contents de dire qu'ils étaient tout à fait prêts pour le faire. Alors, dans ce contexte, faire un procès maintenant de manque d'anticipation sur les enjeux et les conséquences paraît assez déraisonnable. Rappelons que tout ça a été fait dans un relatif consensus à l'époque. Et pour une très bonne raison, c'est qu'on a une solution qui est intéressante. Intéressante sur le plan environnemental, on l'a dit, on divise environ par 2 sur l'ensemble du cycle de vie les émissions de CO2 d'un véhicule. Alors ça, c'est très important. Ce n'est pas des véhicules qui sont propres, ce n'est pas une mobilité propre à zéro émission, oui. Mais c'est 2 fois moins. Et est-ce qu'on peut se passer de réduire par 2 nos émissions et le plus rapidement possible?
Surtout sur le secteur le plus polluant à l'échelle européenne.
Voilà, et vous l'avez dit, les polluants. C'est-à-dire que l'autre bénéfice, c'est celui des émissions polluantes dans les villes. Là, on est bien sur du zéro émission dans les villes. Et je vous rappelle qu'il y a encore 200 000 à peu près morts prématurés par la qualité de l'air.
On est à 240 000.
240 000.
En Europe et à 40 000 en France.
Ça justifie déjà ça. Et en tout cas, ce qui se passe, enfin, pourquoi est-ce que la Chine est tellement engagée? Pourquoi l'Inde est extrêmement motivée à passer à l'électrique? C'est qu'ils ont des très, très gros enjeux de qualité de l'air à régler.
De santé publique. Voilà. Avec une pression de leur population aussi exigeante.
Très exigeante, avec des class action, effectivement, des associations, vous le savez aussi, qui poussent les gouvernements à bouger. C'est intéressant. Et puis, c'est une solution qui, finalement, économiquement, est intéressante. Alors, elle peut paraître chère, et on va en parler, je pense, parce que il y a une mauvaise réputation autour du coût du véhicule électrique. Ce que je veux dire par là, c'est que sur l'ensemble du coût d'usage, c'est-à-dire, si on achète le véhicule, c'est beaucoup plus cher, mais l'énergie pour le faire rouler est moins chère, la maintenance est moins chère, les réparations sont a priori plus faciles, on pourra parler de la réparabilité,
mais exactement.
Si on fait les choses bien, il n'y a pas de difficulté. Ouais. Donc
si on tient compte de tout ça, c'est pas forcément
c'est
plus
pas,
cher.
C'est pas forcément plus cher pour un rouleur moyen à grand, pas pour un tout petit rouleur, mais pour un rouleur normal à très grand, il n'y a aucun problème pour être compétitif, c'est-à-dire pour que ça coûte moins cher finalement de rouler en électrique. Mais il faut quand même acquérir le véhicule au départ, c'est ça la difficulté.
Oui, et alors il y a certainement une question dans la tête de nos auditeurs aussi, c'est de se dire, mais si on électrifie tout ce parc-là, alors qu'on parle justement de la difficulté d'avoir de l'électricité décarbonée, est-ce qu'on parle d'une électricité décarbonée aussi, in fine? Donc ça veut dire développement des énergies renouvelables ou du nucléaire, voilà, c'est quoi cette question-là aussi quand même de sur quelle énergie on se base?
Alors, avec le Green Deal, on va électrifier beaucoup d'usages, l'automobile, les poids lourds et aussi en partie les carburants pour les avions et le maritime. Et en effet, il va falloir énormément d'électricité verte et décarbonée. C'est l'enjeu, j'aimerais dire, de la décennie et des 20 prochaines années, c'est d'arriver à monter en puissance sur cette production d'électricité verte et décarbonée. Des experts ont vraiment planché sur le sujet, ils ont regardé la demande d'électricité de ces nouveaux secteurs et l'offre qui va avoir lieu. Et ce qu'on voit, c'est que ça boucle, c'est-à-dire qu'on aura suffisamment d'électricité pour ces secteurs, pour une augmentation très forte du parc en électrique, notamment de voitures. Mais il ne faudra pas faire l'économie de la sobriété, de l'efficacité énergétique, parce que c'est seulement comme ça, avec tous ces critères-là, qu'on va réussir à boucler l'équation.
Et de la lutte contre le gaspillage qui quand même se chiffre à des niveaux astronomiques. Jean-Philippe Hermine, et Diane Strauss, on parle souvent des véhicules hybrides. Où est-ce qu'on en est? Une solution ou plutôt une dérive?
Alors, il y a deux natures de véhicules hybrides. C'est bon de le préciser peut-être pour certains auditeurs. Donc, il y a les véhicules hybrides qu'on ne recharge pas, qui ne se branchent pas, avec une batterie qui se rechargerait. Et puis, les véhicules qu'on appelle plug-in hybrides, c'est des véhicules qu'on recharge avec une petite batterie et qui peuvent rouler soit en thermique, soit en électrique. Les hybrides non rechargeables, les hybrides, simplement hybrides, ceux que faisait Toyota déjà il y a une dizaine d'années, ceux-là ont été intéressants parce qu'en fait, ils émettent à peu près autant de CO2 que les diesels dont on s'écarte maintenant depuis le Dieselgate. Mais voilà, on a une solution d'hybride essence qui ne fait pas mieux que le vieux diesel d'avant en termes d'émissions. C'est important, mais c'est pas suffisant du tout puisqu'il faut arriver à la neutralité. Donc on est très loin du résultat. C'est une solution intermédiaire donc qui s'est développée pendant 10 ans et qui va continuer probablement un petit peu.
Je rappelle quand même que c'est pas une solution pérenne.
Faut pas dramatiser la situation. C'est sur 25 ans qu'on propose de changer le parc et de transformer le parc en électrique. Vous posiez la question de la disponibilité de l'électricité décarbonée. Eh bien, on a 25 ans pour mettre en place tout ce besoin. C'est en 2035, c'est la fin des ventes de véhicules thermiques. C'est pas la fin du roulage des véhicules thermiques.
Tout à fait. L'autre horizon, c'est 2050.
Voilà. Donc, tous les véhicules qui seront un peu moins émetteurs, un peu plus efficients énergétiquement, un peu moins lourds, tout ça, c'est bon à prendre dès maintenant. Et puis, on a le plug-in électrique, cet électrique rechargeable. Et je pense que Diane peut nous en parler aussi bien que moi. Je vais lui laisser la parole parce que on est parfaitement d'accord sur ce sujet-là.
Diane Strauss.
Oui, alors sur le hybride rechargeable, hein, comme on l'appelle, donc c'est un véhicule qui a deux moteurs, un moteur essence et puis un moteur électrique. Je dirais que c'est un peu la chimère, c'est-à-dire que ça voudrait vendre le meilleur des deux mondes. Et puis, en fait, c'est une voiture très lourde qui consomme beaucoup en essence et qui n'a pas beaucoup d'autonomie en électrique et qui est surtout beaucoup achetée par les entreprises. Entreprises qui espèrent donner à leurs collaborateurs des voitures un peu polyvalentes et puis finalement qui se rendent compte que ça consomme énormément et que ça leur coûte très très cher parce qu'à l'achat c'est aussi très cher. Alors les particuliers utilisent un peu mieux cette technologie, mais finalement un hybride rechargeable qui se charge pour une cinquantaine de kilomètres, c'est aussi bien qu'une électrique classique. Maintenant on a des électriques qui ont des très très bonnes autonomies qui vont jusqu'à 600 kilomètres d'autonomie. Alors, nous, notre position, c'est qu'en fait, pour des questions de minerais, de métaux critiques, il va falloir qu'on ait tous des voitures, pour ceux qui en ont besoin, des besoins pendulaires, d'à peu près 350 km d'autonomie. Ce sera suffisant, il y aura suffisamment de bornes pour se recharger. On n'a pas besoin d'avoir autant de batteries, autant de métaux dans une voiture. Mais c'est possible d'avoir actuellement.
Oui, parce que là aussi, il y a des obligations européennes faites aux concessionnaires d'autoroutes, aux collectivités, peut-être pour installer suffisamment de bornes, on imagine. Et l'électrification du parc de véhicules, est-ce que c'est l'unique réponse ou est-ce qu'il y a d'autres énergies, des carburants alternatifs qui pourraient aussi venir compléter le dispositif ?
Alors, sur les carburants alternatifs, nous, à Transport et Environnement, on est assez vigilants parce qu'il y a deux grandes familles de carburants. Il y a les carburants à base d'électricité, donc la batterie, l'hydrogène à base d'électricité verte, et on peut faire avec cet hydrogène ce qu'on appelle des carburants de synthèse, mais qui sont réservés notamment aux modes de transport qui ne peuvent pas être électrifiés par la batterie, comme le bateau et l'avion. Parce que les batteries seront trop lourdes. Oui. La deuxième grande famille de carburants, c'est les carburants de bioénergie, à base de biomasse. En fait, quand on fait les calculs de demande et d'offre de biomasse, on se rend compte qu'il y a certains secteurs qui ne pourront pas faire autrement que d'utiliser de la biomasse, notamment la chaleur industrielle. Et il n'y aura pas assez de biomasse pour tout le monde. Donc, de notre point de vue, il faut vraiment
le réserver
à certains secteurs et ne pas finalement se dissiper en continuant des moteurs thermiques qui vont finir par rouler avec de l'essence parce qu'il n'y aura pas suffisamment de biomasse.
Jean-Philippe Hermine, et puis il faut rajouter aussi qu'on est quand même dans un contexte d'agroécologie, donc les terres, a priori, devraient servir aussi, notamment à autre chose.
C'est ça, ce sont des ressources finies également. Oui. On en utilise beaucoup, de la biomasse d'ores et déjà dans nos véhicules. Tous ces champs de colza, la moitié d'entre eux finissent dans les véhicules aujourd'hui. Ils sont très jolis, très, très jaunes en ce moment, c'est agréable. Mais il ne faut pas oublier que c'est de la terre, c'est de l'eau, c'est des engrais qui finissent finalement dans nos véhicules aujourd'hui. Bon, on ne peut pas se passer de l'ensemble des carburants alternatifs. Toutes les solutions sont bonnes. On aura besoin du biogaz qui est produit par les exploitations agricoles. Oui. On utilise déjà des agrocarburants qui sont en dilution dans le diesel ou dans l'essence. C'est le E85, c'est le B7, enfin c'est le diesel d'aujourd'hui.
Mais souvent importé de très loin, ou d'Australie, je crois.
On a montré que finalement, l'argumentaire de souveraineté qui est mis en avant pour développer ces agrocarburants, pour les développer plus, c'est un leurre en fait, puisque une bonne partie de ces agrocarburants proviennent de pays loin. D'Ukraine quelquefois, d'Australie d'autres fois. Il y a un problème de saisonnalité, tout simplement, de production des produits agricoles. Et on ne pourra pas étendre finalement de manière infinie notre capacité à produire en France, notamment ces agrocarburants, même ces biogaz. Donc, ils auront une place, mais cette place, comme vous l'avez
fléchée.
Dit, il faut la réserver aux usages qui ne sont pas, qui sont très difficilement électrifiables. De sorte d'avoir une utilisation la plus raisonnée possible, la plus optimum de nos moyens. Même chose pour l'hydrogène. Je pense que les gens, certaines personnes espèrent que l'hydrogène sera un moyen de remplacer le véhicule électrique.
Donc l'hydrogène vert, parce qu'il y a différents hydrogènes. Donc c'est vraiment
cet hydrogène vert, on en a très 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 peu pour l'instant. Oui. C'est ça la difficulté. Là encore, c'est une question de disponibilité, une question de prix aussi, il est très élevé. Et puis, on en a extrêmement besoin pour transformer d'autres usages, comme par exemple la production d'acier qui va aller dans les voitures, par exemple, faire de l'acier vert sans charbon, ça demande énormément d'hydrogène. Donc l'hydrogène vert que l'on va produire, pendant une décennie, pendant deux décennies peut-être, va principalement servir à ces usages industriels pour décarboner d'autres enjeux de notre consommation qui sont tout aussi importants, prégnants et qui n'ont pas de solution aujourd'hui.
Donc
sur le routier, oui. On en aura sur le routier longue distance, pour du transport de marchandises peut-être, mais pas dans nos voitures.
Mais pas sur les voitures.
C'est un consensus.
Donc voiture électrique. À partir de là, on comprend aussi qu'il y a un autre enjeu pour ce pacte vert, pour l'Europe, c'est vraiment la relocalisation de la production et renforcer le projet de transition industrielle. Parce que bien sûr, on comprend que ce secteur, il est important, il emploie des millions de personnes et que l'avenir aussi du secteur industriel et des métiers est dans le projet. Donc, relocaliser la production, renforcer le projet de transition industrielle, voilà. Comment on fait pour mettre cela en œuvre? Donc, ça veut dire aussi assurer sa résilience et sa compétitivité au regard d'autres systèmes comme le système américain, le système asiatique, on peut les mentionner, hein. Qui veut partir sur ce terrain-là? Diane Strauss, vous êtes très respectueux l'un de l'autre et chacun se donne la parole, mais allez-y.
Je commence du coup. On a un constat, c'est que la demande de voitures électriques augmente, 12 millions de véhicules vendus en 2023. Et c'est vrai que les constructeurs européens avaient pris un peu de retard par rapport à d'autres constructeurs. Mais le pacte vert, là, a vraiment eu la valeur de lancer cette filière de la lancer, notamment pour les constructeurs européens historiques. Donc, il y a un certain nombre de véhicules, en effet, qui proviennent notamment de Chine. Il faut savoir qu'il y a des marques chinoises, mais il y a aussi des marques françaises, comme Dacia. Il y a beaucoup de Tesla aussi, qui sont importés de Chine. Et donc, la moitié des véhicules importés de Chine sont en fait des véhicules de marques occidentales, disons. Mais pour les autres, c'est vrai que il y a une question de concurrence, puisqu'il y a une enquête qui a été ouverte de l'Union européenne pour savoir si les véhicules chinois de marque chinoise étaient subventionnés, ce qui créerait une forme de concurrence.
L'enquête est en cours, mais visiblement la réponse serait oui quand même.
Oui, voilà. Donc l'objectif maintenant qu'on a à ce constat, c'est vraiment comment favoriser la production européenne. D'abord, il faut soutenir le Made in Europe en aidant, par exemple, à travers un éco-score. On a eu un éco-score français qui permet de favoriser l'empreinte environnementale et carbone assez faible des voitures produites en France et en Europe. Dans la fiscalité, on peut reproduire cet éco-score au niveau européen pour favoriser la production locale, européenne. Et puis, on peut aussi penser à protéger notre industrie. Il faut savoir que, par exemple, les droits de douane sont bien inférieurs en Europe.
10%, je crois que c'est ça.
Contre 25% pour les États-Unis et pour la Chine. Donc, il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des milliards d'euros ont été dépensés maintenant pour développer cette industrie de l'électromobilité sur toute sa chaîne de valeur et qu'il va être très important de la soutenir et de favoriser son essor.
Jean-Philippe Hermine, alors on parle d'éco-score environnemental, il faut peut-être préciser de quoi on parle. C'est pour lutter contre la concurrence chinoise, par exemple, c'est on conditionne le bonus écologique à l'empreinte carbone tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de la production. C'est ce qui a été mis en place en France. C'est ce qui n'existe pas encore à l'échelle européenne.
Voilà, ça n'existe pas à l'échelle européenne parce qu'il n'y a pas un standard qui a été développé. Donc, la plupart des organisations, la société civile appelle à ce que ce standard soit développé. Et certains constructeurs également qui ont tout intérêt à valoriser cette vertu environnementale au stade de la production. En fait, faut pas voir ces outils simplement comme un outil de protection industrielle, loin de là. C'est dans l'ADN de l'Europe de vouloir décarboner sa mobilité et ses activités. Et décarboner son activité, c'est pas simplement rouler en électrique. C'est rouler dans des véhicules électriques qui sont produits avec une empreinte quasi nulle, si on peut, c'est-à-dire avec des matériaux recyclés, avec de l'énergie décarbonée. On est capable et on doit avoir effectivement cette exigence également au stade de la production, puisque ce qui se passe finalement en roulant à l'électrique, c'est qu'on a on arrête en gros d'émettre à l'usage, mais avec la production de la batterie, on émet plus en production. Eh bien, il faut également s'assurer que cette empreinte carbone à la production, qui est largement, je l'ai dit précédemment, effacée par le bilan sur l'ensemble du cycle de vie, mais néanmoins, on a les moyens de pointer du doigt ce qui est vertueux et de donner quelque part une valeur économique, une valeur réglementaire à ces bonnes pratiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le score environnemental, c'est-à-dire que, d'une part, dans les propositions que l'on fait, c'est un score qui, d'une part, valorise la bonne efficience énergétique, c'est-à-dire des véhicules qui seront les moins lourds possibles, qui seront les moins suvisés en quelque sorte, c'est-à-dire avec des profils qui sont pas aérodynamiques. Hein. Donc on essaye de valoriser d'une part ces véhicules qui sont les plus efficients d'un point de vue de la consommation énergétique. On l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on arrive à alimenter tout ça avec de l'énergie, de l'électricité décarbonée. Eh bien, commençons à être un peu sobre lorsqu'on en a les moyens. Donc ça, c'est une question de taille de véhicule, de poids de véhicule. Et on a également un autre paramètre dans ce score environnemental qui est l'empreinte carbone des matériaux utilisés. C'est-à-dire l'empreinte carbone depuis la mine, hein, depuis des métaux critiques qui servent à faire les batteries, mais également de l'aluminium, de l'acier, on en a parlé tout à l'heure, de l'acier vert. Et donc, on veut vraiment donner, quelque part, un score, un label, enfin disons, une capacité pour le consommateur, d'une part, de s'y retrouver, et puis pour le législateur de pouvoir légiférer justement par rapport à cette performance environnementale de la production, ou pour le législateur aussi de mettre en place des systèmes de fiscalité qui permettent de donner de la valeur justement à ce qui est
vertueux. Est vraiment vertueux ou plus ou moins vertueux. Il y a cette question aussi de ces métaux critiques, puisque on sait que la France ne possède pas dans ses sous-sols ces métaux critiques. On est quand même dans une dépendance. Que faut-il faire ou d'ici 2050 aussi, parce que dans ce projet, il faudra quand même extraire du sol suffisamment de quantité pour pouvoir justement engager cette bascule vers des véhicules électriques.
Alors, ça, c'est... Je prends la main sur ce sujet-là, puisqu'on parle de matériaux et de mines. C'est un vrai souci, un vrai sujet de la transition. Et ça se limite pas à la question des véhicules. Hein. C'est également pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, pour beaucoup de nos activités. Cette transition va se faire sur l'électrification, et ça veut dire beaucoup de cuivre, beaucoup de cobalt, de nickel pour les batteries, etc.
Et de pour lithium. L'instant, on dépend des Chinois pour les batteries, pour ces métaux critiques, en grande partie.
Alors, on dépend pas du point de vue de la mine, hein, puisque ces métaux sont extraits plutôt pour le cobalt en République du Congo, pour le lithium en Australie ou au Chili. On a différents sourcings à travers le monde, mais une bonne partie de ces matériaux, 70% d'entre eux, passent par la Chine à un moment ou un autre pour être processé, ça veut dire pour être transformé en ce qui va servir à construire des cellules qui vont faire des modules puis des batteries. Et donc on a un souci effectivement de concentration de la capacité industrielle, du savoir-faire industriel pour l'instant en Chine.
Donc il faut développer les capacités industrielles de recyclage en Europe.
Par exemple, c'est une obligation. Je veux dire, c'est presque consubstantiel. L'électrification et l'économie circulaire, ce sont deux sujets qui doivent aller absolument main dans la main. Parce que finalement, ce qu'on l'on fait en s'affranchissant des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'on abandonne un vecteur énergétique qui était le pétrole, hein, les carburants, que l'on brûlait. On le détruisait hein, pour avancer. Ça avait mis quelques centaines de millions d'années à être créé. Et on émettait des gaz à effet de serre. Là, on passe à un tout autre vecteur énergétique. C'est celui de ces batteries avec ces métaux critiques. Mais ces métaux, finalement, on ne les détruit pas en les utilisant. Ils sont éminemment recyclables. Donc, on peut dire qu'à terme, lorsqu'on aura électrifié le parc, finalement, on aura constitué un stock qui permet de faire une économie circulaire et de ne plus dépendre du reste du monde, de l'Arabie Saoudite ou d'autres. Et on sait que tout ça génère quand même pas mal de conflits et autres difficultés. Donc, l'économie circulaire, le recyclage de ces métaux, est central. Mais il y a bien d'autres sujets parce qu'il faut constituer ce stock avant d'en disposer pour faire cette économie circulaire.
Donc
et c'est là
dire,
que se posent les questions de la mine, de l'extraction, des conditions dans lesquelles tout ça est réalisé. Et c'est très important d'être aussi exigeant, vigilant de ce côté. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais...
Là, c'est environ 80% de nos besoins qu'il faut extraire d'ici 2050. Diane Strauss.
La on parle de l'Europe, et là, je pense qu'il est important de souligner que l'Europe a été vraiment très active dans le fait d'organiser cette filière de la batterie, et qu'elle essaye de le faire de la manière la plus respectueuse de l'environnement et des droits sociaux possible. Elle demande d'ailleurs aux constructeurs d'être vigilants. Il y a un devoir de vigilance sur les impacts sociaux et environnementaux des métaux critiques et des batteries sur toute la chaîne de valeur de la batterie. Et donc, ce qu'on voit actuellement, c'est un mouvement général de la part des constructeurs et des différents constructeurs de batteries européens d'aller certifier des mines pour finalement prouver que les conditions sociales et environnementales sont respectées. C'est ce qu'on a qu'on appelle IRMA. Ça prend un certain temps, mais là je pense que c'est important de préciser que l'Union européenne s'est saisie de ce sujet de l'extraction. On peut faire mieux. Il y aura jamais de mines parfaitement propres, comme il y aura jamais de voitures propres, mais en tout cas on essaye d'améliorer les conditions d'extraction environnementale et sociale.
Et alors, bien sûr, on a compris que les industriels avaient pris le chemin de ce pacte vert et avaient aussi tout intérêt à entrer dans ce pacte vert. Qu'en est-il des ménages ? Fin du monde, fin du mois, la question de la mobilité est aussi celle de l'accompagnement indispensable. Avant d'en discuter, écoutez justement ce reportage diffusé sur France Info le 13 février 2024.
L'État débranche son dispositif de leasing social, victime de son succès. Ce concessionnaire a réalisé en 6 semaines près de la moitié des commandes de voitures électriques qu'il fait habituellement en 1 an.
Les demandes ont été extrêmement importantes. Ce dispositif a permis d'engendrer un flux important de clients, notamment des clients qu'on n'aurait peut-être pas eu en temps normal dans nos showrooms pour du neuf.
Pour en profiter, ces 3 critères sont indispensables. Avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 15 400 euros, vivre à plus de 15 km de son travail et rouler plus de 8 000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle. 100 euros par mois pendant 3 ans et l'État qui finance jusqu'à 13 000 euros par véhicule, mais un succès en demi-teinte pour la voiture verte.
C'est quand même assez inquiétant qu'on soit obligé, pour réussir enfin à vendre des voitures électriques, d'en financer jusqu'à 50% de la valeur. On est en train quand même de parler d'un objet qui vaut, grosso modo, 23 000 euros, et on finançait jusqu'à 11 500. Donc vraiment, la moitié de la voiture était prise en charge par le contribuable, ce qui est quand même totalement anormal.
Du côté des constructeurs, la tension est forte. Ils ont du mal à suivre.
Aujourd'hui, il y a une grande demande, et on n'a pas encore assez de produits.
Ça veut dire
fabriqués en France. Ça veut dire qu'il faut que les constructeurs français accélèrent la cadence.
300 000 véhicules électriques ont été vendus en 2023 sur 1,5 million de voitures mises en circulation. Le leasing social, lui, sera à nouveau disponible début 2025.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors on comprend cette question du leasing social, de son succès aussi, la France débordée par le succès. Comment faire en sorte que tous les foyers puissent changer de véhicule aujourd'hui, en sachant que de toute façon les véhicules, la plupart des personnes achètent des véhicules d'occasion et que le marché d'occasion n'existe toujours pas. Et puis parlons aussi de cet accompagnement du leasing social tel qu'il a été imaginé. Yann Strauss.
Oui, en effet, il faut revenir sur une idée reçue qu'on demanderait aux ménages d'acheter des voitures électriques neuves, alors que 85% des ménages achètent en réalité sur le marché de l'occasion, parce qu'ils n'ont pas, et ça se comprend très bien, entre 20 000 et 40 000 euros à mettre dans une voiture neuve. Et donc la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on accélère l'arrivée des véhicules électriques sur le marché de l'occasion. Et là, il faut regarder du côté des entreprises. Parce que les entreprises, ça représente 6 voitures neuves vendues sur 10. C'est elles, en fait, qui créent la demande de voitures neuves. Et elles revendent leurs voitures neuves au bout de 4 ans sur le marché de l'occasion. Et donc, il faut accélérer la transition des flottes d'entreprises, comme on les appelle, notamment des grandes flottes. On a actuellement au Parlement une loi qui est en discussion pour accélérer l'électrification des flottes d'entreprises. Ça va être une loi qui est vraiment très structurante, très importante pour cette transition climatique et pour la planification écologique.
Jean-Philippe Hermine.
Oui, on soutient tout à fait cette initiative. C'est très important, effectivement, parce qu'il nous faut une transition inclusive. On a parlé des enjeux sociaux associés au travail, hein, à la délocalisation ou la relocalisation, puisqu'il y a des opportunités aussi industrielles autour de ces nouveaux métiers. Et d'ailleurs, il y a toute la vallée de Dunkerque, la vallée de la batterie qui se met en place. Et donc, il y a autant de... Disons, il y a des métiers qui se créent, des métiers qui peuvent disparaître. Donc, cet aspect social est important du côté du travail, mais il est aussi important cette inclusion, cette inclusivité de la transition pour embarquer tout le monde. Au départ, on a eu le début de cette transition, c'est fait avec des bonus écologiques. Vous vous rappelez, oui. Les bonus écologiques, c'est seulement les gens qui achètent des véhicules neufs. Et les gens qui achètent des véhicules neufs en France, ils ont en moyenne 55 ans, ils sont plutôt riches. Et donc finalement, on a une logique simplement de ruissellement. Ça peut pas suffire pour dire on va attendre que les riches fassent un marché et puis les autres vont en hériter. Et puis les plus précaires, ce sont ceux qui arrivent avec des véhicules qui sont les plus anciens, hein, finalement.
Et les plus polluants
vont devoir se débrouiller. Y compris pour rentrer dans des ZFE, puisque ce sont leurs véhicules à eux qui vont être mis à l'index dans certains territoires. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Donc Diane l'a dit, la première mesure, c'est d'accélérer l'émergence d'un marché de véhicules d'occasion en utilisant les entreprises et leur taux de renouvellement qui est extrêmement rapide.
En imposant peut-être des quotas aussi de verdissement pour les flottes privées. Alors.
Exactement. Mais on vient de le voir dans le petit reportage, il y a aussi le leasing social. Le leasing social, ça s'adresse à une autre catégorie de population, justement ce sont les plus précaires, où là, on va plutôt que donner finalement un bonus à ces gens qui sont les plus aisés hein, dans la société pour initier la transition, et c'était une bonne mesure au départ, hein, une mesure pour catalyser la transition au départ, et bien maintenant il faut passer d'une logique de catalyseur, de initiation de la transition, à une logique d'accompagnement de la transition. Et c'est justement la cible qui est là. Certains disaient dans le reportage que c'est très très coûteux. On peut adapter cela pour que, vu le succès que ça a, ça coûte un peu moins cher à l'État, mais c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, la mesure telle qu'elle a été proposée en France, le leasing social, est regardée de manière très 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 attentive par les autres pays, parce que c'est réellement comme ça que l'on va réussir à expliquer que cette transition, elle n'est pas dans les mêmes logiques, de business model, les mêmes logiques qui ont prévalu pendant 100 ans autour du véhicule. Et là, on parle de l'achat ou de la possession d'un véhicule, mais il y a aussi tout le partage du véhicule et d'autres véhicules, puisqu'il va falloir électrifier aussi les bus et des transports en commun. Donc, vous voyez, on est sur une transformation qui est beaucoup plus systémique.
Il faut être assez créatif. Transformation sociétale Total. À ce stade de l'émission, on va écouter votre choix musical, Diane Strauss. Mais juste auparavant, je voudrais quand même signaler que Jean-Philippe Hermine nous a aussi proposé un choix musical intéressant. Vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site. En tout cas, nous ferons en sorte qu'il y ait la référence, bien sûr, parce que vous vouliez nous faire écouter un groupe Touareg.
Oui, ce sont des amis, ce sont des gens que l'on a rencontrés, enfin que ma mère a rencontrés au Sahara, au sud de l'Algérie, et qui sont des gens remarquables et qui sont de très bons musiciens. C'est Nabil Bali, je vous le recommande. Et pour moi, c'était aussi l'occasion d'élargir un petit peu le sujet. On est un petit peu trop centré sur l'Europe. On est en train de régler un problème qui est de nature mondiale. Il ne faut pas oublier que tout ça a des dimensions qui ne sont pas strictement françaises ou européennes. Et il ne faut pas qu'on se concentre sur nos difficultés trop et qu'on élargisse un petit peu le débat. C'est aussi un clin d'œil de ce côté-là.
Tout à fait. Et alors, votre choix musical, Diane Strauss, c'est la chanson Mathilda de
Alger.
This is wrong. This is wrong. This is from Mathilda. This is from Mathilda.
Mathilda de Alt G, et je rappelle que le groupe Touareg Nabil Bali est à découvrir. Références qui seront mises sous peu ou d'ici demain, en tout cas sur le site de l'émission, bien sûr. C'est la suite de Cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct et nous poursuivons notre plongée dans l'Europe des transports et l'avenir du pacte vert sur ce secteur. Nous sommes avec Diane Strauss, directrice du bureau français de l'ONG Transport et Environnement, et Jean-Philippe Hermine, directeur général de l'Institut Mobilité en transition, fondée par l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors, en dehors du secteur routier, bien sûr, il y a d'autres secteurs. Que faut-il aussi développer plus largement? Allez, je vous propose d'écouter ce petit reportage diffusé sur France 3 le 16 mai 2023.
Ce camion arrive au port de Charenton, à l'entrée de la capitale. Toute la cargaison, plus de 15 tonnes, va prendre la Seine. À bord du carrelage, du ciment, et même cet engin, un compresseur.
Pismarlin, grand, hop !
Pour un chantier au cœur de Paris. Le fret fluvial progresse, mais lentement. 14 millions de tonnes de marchandises transportées sur la Seine en 2014. 15,4 millions l'an dernier. Il s'agit d'une gare RER en plein chantier de rénovation.
Attention à vous.
Le déchargement des matériaux est délicat.
Alors, par au fond !
Mais grâce au fret fluvial, la SNCF estime avoir évité 800 camions dans Paris.
On n'a pas de mauvaise surprise, on sait à quelle heure part le bateau, on sait à quelle heure il arrive. Il n'y a pas d'embouteillage possible.
Nous voici sur le Rhin, à Strasbourg, avec un tout autre type de livraison proposé par cette entreprise spécialisée.
Ça, c'est une zone de Strasbourg qui sera desservie avec ses colis pour les particuliers. C'est même plus qu'une zone, c'est une rue de Strasbourg qui sera desservie pour du colis de particulier.
Toute la rue dans une boîte sur
un Toute bateau. La rue dans une boîte, oui.
Là encore, le navire accoste en plein centre-ville. À peine le temps de décharger, et ce sont des livreurs à vélo qui prennent le relais.
Les livraisons arrivent avant service, parce que quand ils sont en voiture, ils sont toujours bloqués au centre-ville et ils n'arrivent pas à venir avant. Donc là, en vélo, ils ont plus de temps, je pense. Ils circulent beaucoup mieux sur la ville, en fait. C'est plus facile.
Ils sont à l'heure, en fait.
Voilà.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, le fluvial, la mobilité douce en ville, il y a d'autres secteurs, bien sûr, qui sont à regarder. On pourrait parler longuement du ferroviaire également. En sachant quand même, il faut garder en tête, hein, Jean-Philippe Hermine, que les secteurs, pour l'heure, les plus difficiles à faire évoluer, c'est l'aviation. Le maritime, ça bouge?
Le maritime, le fluvial, il y a des solutions pour électrifier aussi. Mais je pense que votre reportage est intéressant. On voit bien que c'est une transformation aussi qui est systémique. C'est les façons dont on pratique les mobilités qui est importante et les transports. Là, on voit bien que c'est l'intermodalité entre le fluvial et le vélo qui est en jeu. Eh bien, c'est pareil pour les personnes. On a toute une batterie de solutions qu'il faut faire fonctionner ensemble, qui doivent se faire à la courte échelle, en quelque sorte. Ça s'appelle l'intermodalité. Passer du train au vélo électrique potentiellement, du covoiturage à un transport en commun. C'est ça qu'il faut aussi organiser. C'est l'autre chantier de la transformation des mobilités qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que l'électrification. Et tous ces modes doivent être électrifiés aussi. Le vélo potentiellement, et les potentialités sont énormes. On le voit en Allemagne, on le voit dans d'autres pays du Nord. On a un très gros chantier, on a une très grosse marge de manœuvre encore sur le vélo, le vélo électrique. Et puis les transports en commun aussi doivent être électrifiés. De même que les barges dont on parlait sur les fleuves.
Oui.
Il suffit pour cela d'utiliser par exemple des batteries qui n'ont plus d'usage dans les véhicules. Ça s'appelle la deuxième vie des batteries. Et elles sont parfaitement adaptées pour pousser par exemple des barges sur les fleuves. Et là aussi, on est dans une logique systémique d'économie circulaire avec l'extension de la durée de vie d'une batterie, par exemple.
Alors, ce qui peut aussi freiner certains, c'est parfois le coût. Alors là, on voit des villes qui pensent à la gratuité des transports en commun. Le ferroviaire, pour l'instant, reste encore cher et peut freiner, ou certaines familles emprunter un peu plus le train plutôt que d'utiliser leur voiture. Là aussi, il y aura tout un travail peut-être à mener. Diane Strauss.
Oui, vous parliez d'avion et de maritime, je voulais rebondir. Ce sont vraiment les deux secteurs les plus difficiles à décarboner. Ce qu'on sait, c'est que la part des transports due à l'aviation et au maritime représentera 44% des émissions en 2030, donc d'ici 6 ans, parce qu'en fait, on arrive à faire réduire l'ensemble des autres secteurs, des émissions des autres secteurs, mais pas de ces secteurs-là. Et donc, il y aura deux grands leviers, notamment pour l'aviation. Le premier, ce seront les carburants durables, dont des carburants qui seront faits à partir d'électricité. Mais on a vu que vraiment les électrons verts et décarbonés vont être une denrée très précieuse. Et les carburants de synthèse qui sont faits à partir d'électricité sont très énergivores. Et puis, il va falloir avoir une réflexion collective sur l'usage de l'avion et le prix de l'avion. Et là, on en revient à votre question. Donc, pour le moment, le ferroviaire est encore plus cher que l'avion, les travaux sont en cours pour réfléchir à une fiscalité de l'avion qui reflète mieux son impact environnemental et l'impact sur les générations futures.
Alors, il y a une question qui se pose, bien sûr, puisqu'on parle de l'Europe, c'est aussi les possibles détricotages de ce qui est engagé dans le cadre de ce Green Deal, du Pacte Vert. Jean-Philippe Hermine, est-ce qu'on peut craindre des détricotages selon les oppositions, les réticences, les lobbies aussi, qui restent à la manœuvre quand même?
Oui, on le voit actuellement. Il y a, je le disais tout à l'heure, une petite musique. Des gens qui disent tout ça, c'est inconséquent. L'Europe va trop vite. Eh bien, nous, on dit au contraire. Une fois qu'une décision est prise, il ne faut pas procrastiner. On l'a vu tout à l'heure sur l'enjeu industriel. On est déjà en retard par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis aussi, qui ont pris des mesures importantes. Est-ce que si on donne un peu plus de temps, on sait ce qui va se passer. C'est qu'on va prendre du retard de plus.
On sera à la remorque. Ça nous coûtera plus cher.
Non seulement c'est inconséquent d'un point de vue climatique, mais le coût social sera très important. Et pourtant, il est prévu une clause de revoyure sur tout ce qu'on a décidé aujourd'hui en 2026. Et donc, c'est important, effectivement, d'avoir un Parlement qui soit ferme sur ses positions en matière de Green Deal et qui ne se laisse pas déborder par de nouvelles personnes qui prennent la parole aujourd'hui et qui, quelque part, exploitent un petit peu les peurs et les craintes autour de cette transition, de cette transformation, pour à des fins un peu politiques principalement. Mais quand on regarde les acteurs économiques, les acteurs de la mobilité, les acteurs sociaux, ils sont tous maintenant convaincus qu'il faut garder le cap en quelque sorte et le rythme, parce que c'est la constance qui garantit le succès, et c'est sûrement pas les va-et-vient ou les dispersions.
Vous avez des craintes précises quand même, ou est-ce que vous avez repéré certains obstacles en particulier?
Écoutez, il y a ce cadre réglementaire, ça s'appelle la clause de revoyure en 2026, qui fait que on pourrait effectivement détricoter tout ce qui est tout ce dont on vient de parler aujourd'hui, et avec des conséquences qui seraient très délétères, et pas seulement pour le climat. C'est ce qu'on essaye d'expliquer. C'est pas facile parce que c'est complexe, tout ce dont on a parlé.
Bien
ça
sûr.
Assez.
Et comme vous le disiez, un report, ce serait un risque pour l'outil industriel européen face à la Chine et aux États-Unis notamment, qui avancent sur ce secteur décarboné. Et un retard, c'est aussi un risque de défaut de compétitivité, donc de perte d'emplois et de perte de marché, de part de marché à terme. Donc effectivement, oui, Diane Strauss.
Oui, non, je vous laisse finir. C'était juste, je voulais rappeler aux auditeurs et les inviter à prendre leur téléphone portable et à noter la date du 9 juin, qui est la date des élections européennes, pour aller voter. Ce sera très important que, en effet, les électeurs se mobilisent pour aller défendre cette Europe qui a défini des objectifs climatiques et qui doit continuer à avancer, avec certes des volets de mise en œuvre, industriels, sociaux, pour vraiment rendre ce Green Deal tangible et faisable. Et c'est important d'aller voter, quand bien même c'est un week-end de juin.
Allez, vous restez avec nous. Il est l'heure de retrouver l'œil du monde planète en partenariat avec le journal Le Monde. Et nous sommes avec Stéphane Mandard pour regarder du côté d'un traité international sur la pollution plastique. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Aurélie. Oui, vous connaissez parfaitement ma passion pour le plastique qu'on boit, qu'on mange et qu'on respire jusque dans l'Himalaya. Bouteilles, bouchons, bâtonnets de coton-tige, cintres, poignées de parapluie et même seringues. Pendant mes vacances, j'ai encore fait de magnifiques natures mortes à partir des déchets ramassés sur la plage. Avec le climat et la biodiversité, le plastique est la troisième grande crise à laquelle est confrontée l'humanité. Juste deux chiffres pour rappeler l'étendue de la menace. Chaque minute, 15 tonnes finissent à la mer. Chaque année, 460 millions de tonnes sont produites à l'échelle de la planète, une quantité qui a doublé en 20 ans et qui pourrait encore tripler d'ici à 2060 au rythme actuel. Alors pour mettre fin à cette pollution plastique, les 175 pays membres de l'ONU ont adopté en 2022 une résolution qui vise à élaborer un traité international après Paris et Nairobi. Une nouvelle séquence de négociations cruciales se tient donc à Ottawa, au Canada, jusqu'au 29 avril. Le calendrier est serré. L'objectif est d'aboutir à un texte juridiquement contraignant avant la fin de l'année pour une adoption formelle au premier semestre 2025. Après Ottawa, une cinquième et ultime session de négociation est prévue en fin d'année à Busan, en Corée du Sud.
Alors Stéphane, où en sommes-nous à ce stade, avant justement de vivre ce prochain tour de négociation ?
Alors la session précédente qui est organisée à Nairobi en novembre 2023 a accouché d'une première mouture de texte, mais elle a surtout mis au jour de nombreux points de désaccord. Pour résumer, deux blocs s'affrontent, une coalition présidée par la Norvège et le Rwanda et regroupant 65 membres dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne défend un texte dit de haute ambition. Ce groupe veut agir à la source et met notamment l'accent sur la réduction de la production de plastique. D'ailleurs, un rapport publié le 12 avril par le Lawrence Berkeley National Laboratory réévalue à la hausse l'impact climatique de la production de plastique primaire qui repose sur l'extraction et la transformation d'énergie fossile. Si elle ne diminue pas cette production de plastique de 12% à 17% par an à partir de cette année, elle fera dérailler à elle seule l'objectif de l'accord de Paris de maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré, préviennent ses auteurs. Les ONG, elles, plaident pour une réduction de 75% de la production à l'horizon 2040.
Et là, tout le monde n'applaudit pas à cette proposition.
Alors en effet, les pays producteurs de pétrole qui voient dans les plastiques de nouvelles débouchés que ne leur offriront bientôt plus les voitures n'ont aucun intérêt à ce qu'on leur impose des quotas de production. Autour des pays du Golfe, s'est montée une contre-coalition dite « je n'invente rien » pour la durabilité des plastiques. Elle regroupe l'Iran, la Russie, le Brésil ou encore l'Inde. Soutenue par les lobbies d'industrie pétrochimique, ils étaient 143 accrédités lors du dernier round de négociations à Nairobi. Ces pays ne veulent pas entendre parler de réduction de la production et privilégient une approche fondée sur le recyclage. Il faut préciser que le recyclage plafonne aujourd'hui encore en dessous de 10% au niveau mondial. Les États-Unis et la Chine, qui sont les deux plus gros producteurs et consommateurs de plastique, ne font pas officiellement partie de cette coalition, mais sont sur la même ligne.
Alors justement, est-ce que le contexte géopolitique pèse aussi sur ces négociations ?
Alors depuis le début des discussions, l'Iran mais aussi la Russie sont dans une logique d'obstruction pour ralentir la négociation et le contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine et la crise politique au Moyen-Orient n'arrange rien. Des diplomates européens et français évoquent, je cite, un cocktail assez complexe qui risque de paralyser l'avancement de la négociation. Le député français Philippe Bollot est à l'initiative d'une coalition parlementaire internationale qui pousse pour un traité vraiment contraignant. Il estime que bloquer les débats placerait l'humanité dans une impasse sans retour et accessoirement m'obligerait à poursuivre mon œuvre de nature morte aux prochaines vacances.
Merci Stéphane Mondard.
Merci Aurélie.
Et votre article complet sur ce sujet crucial est accessible sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et retour dans l'Europe des transports, l'avenir technologique. Alors, vous le voyez comment? Avant de répondre à cette question, je vous propose d'écouter cet extrait de reportage diffusé sur France 2 le 21 juin 2023.
Se rendre aux Jeux Olympiques sans embouteillage et en quelques minutes seulement, c'est la promesse de ce taxi volant aux allures futuristes. L'engin est un petit hélicoptère entièrement électrique, une des stars du Salon du Bourget.
Le pilote est assis à gauche, le passager à droite. L'avion est contrôlé par un manche central. Nous avons devant nous un tableau de bord assez simple. L'ironie de la chose, c'est que les pilotes d'hélicoptères devront désapprendre de nombreuses compétences très pointues et réapprendre à piloter un avion simplement.
Le constructeur allemand Volocopter s'est associé avec Aéroports de Paris pour un projet de transport touristique dans le ciel de la capitale et n'attend plus que l'agrément de la part de l'aviation civile. S'il l'obtient à temps pour les Jeux Olympiques, les taxis volants pourraient emprunter trois routes, une au nord entre les aéroports de Roissy et du Bourget, l'autre vers le centre de la capitale.
Lorsque je vais de l'aéroport au centre-ville, cela me prend 2 heures. Sur ces trajets, je pourrais voler en seulement 20 minutes, sans émission et très confortablement à l'avenir.
Alors, une réaction peut-être à ce reportage, l'avenir des taxis aériens. On pourrait parler aussi des transports en drone pour faire les livraisons. Allez, Diane Strauss.
De mon côté, quand on vient de parler de contraintes énergétiques et d'enjeux climatiques pendant une heure, c'est douloureux d'entendre ça. Je pense que l'avenir, c'est plutôt à la sobriété et au mode de trafic confortable et sécurisant avec des technologies qui sont déjà développées, qui sont électriques. Un point quand même sur le futur des transports. Oui. On commence à regarder la voiture autonome. On sait que les taxis autonomes opèrent déjà à San Francisco. Il y a là des enjeux très importants de réglementation parce que ça peut être des solutions intéressantes pour diminuer, pour rendre de l'espace aux citadins, notamment dans les villes, en diminuant l'usage de la voiture privée. Et en même temps, ça peut vraiment augmenter les kilomètres parcourus. Donc là, se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on va organiser cette transition, avec quelle réglementation. Et j'en reviens au rôle de l'Europe, le rôle si fondamental d'organiser cette transition au niveau européen avec des règles communes et des objectifs communs.
Jean-Philippe Hermine.
Oh, je suis sur la même ligne. Il faut faire attention à toutes ces solutions technologiques qui nous font gagner du temps potentiellement et puis qui conduisent simplement à augmenter notre consommation. C'est ce qu'on a vécu pendant des années. En 30 ans, on est passé d'une distance travail-maison de 8 km à 15 km. Et on passe autant de temps qu'on en passait avant. Simplement, on va plus loin quand ça coûte moins cher et quand on a la possibilité d'aller plus vite. On est assez peu logique finalement. Finalement, ou cohérent de ce point de vue-là. Donc, méfions-nous des solutions qui nous font gagner du temps. Il faut effectivement plutôt de la sobriété, parce que finalement, quand on est passé de 8 à 15 km, eh bien, on est de plus en plus loin, on est de plus en plus dépendant de sa voiture, in fine. Donc, on croit gagner en mobilité, on croit gagner en liberté, mais au contraire, on se met dans des situations de dépendance qui sont de plus en plus importantes.
Donc, finalement, ralentir, hein, en fait. Il y a vraiment ce message aussi d'économie, de penseurs, philosophes ou de spécialistes aussi, qui prônent vraiment un ralentissement de nos vies. Ça ne veut pas dire être moins efficace, mais
ça veut dire aussi vivre différemment. Peut-être penser l'urbanisation des villes, la façon dont on a conçu notre espace de vie qui s'est élargi, alors qu'on peut très bien engager une logique inverse et revenir à des choses plus raisonnables de ce point de vue-là.
Cette vie d'après, ce monde d'après, la ville d'après, vous la pensez déjà, Diane Strauss, hein, en matière de mobilité
Oui, on travaille beaucoup sur les villes. On reprend notamment les objectifs de l'Association de consommateurs européens qui dit que la solution la plus écologique doit aussi être la plus sécurisante et la plus économique. Et donc, dans ce cadre-là, l'aménagement du territoire et des infrastructures sont vraiment fondamentales. Permettre de se déplacer avec des mobilités douces, avec des mobilités partagées, parce que les infrastructures sont là, parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus rapide. Mmh. C'est pour ça que les pistes cyclables sont tellement importantes. Et une deuxième phrase que j'aime beaucoup, qui nous guide, c'est l'offre qui fait la demande dans les transports. Et en effet, c'est l'offre d'infrastructures qui nous permet de choisir quel est le mode de transport que nous allons choisir.
Merci à tous les deux, Diane Strauss, Jean-Philippe Hermine. Alors j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à notre technicien Hugo Renard qui vit son dernier direct avec nous, dernier direct à Radio France avant de poursuivre sa route avec de nouvelles aventures. Est-ce que je peux dire où ? À Montréal, voilà, il me fait signe que oui. Bravo à toi, Hugo Le Renard. Et puis, toutes les informations, comme d'habitude, sont à retrouver sur le site de l'émission, la biographie, les liens, franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ainsi que tous les podcasts des émissions précédentes, dont la série, bien sûr, Les défis de l'Europe.